Bonjour à toutes et à tous. Oui, le frère, il a lu d'Actes chapitre 2, quand ces foules de gens qui écoutaient la parole de Dieu, prêchée par Pierre, ils ont dit, homme frère, que ferons-nous? Et la réponse est, repentez-vous, repentez-vous. Et nous aussi, chaque fois quand nous entendons la parole de Dieu, quand nous lisons la parole de Dieu, nous avons certainement des choses à repentir. Nous devrions repentir. C'est vrai, nous sommes repentis une fois pour tourner de notre voie de péché et nous sommes venus vers le Seigneur, mais on a des choses à quitter, on a des choses à corriger, donc nous avons toujours besoin de nous repentir. Je commence avec une histoire. C'est un vécu. Il y a de nombreuses années, nous vivions dans un appartement dans une cité de la même ville où nous habitons maintenant. Un après-midi, j'ai entendu du bruit et des mouvements et j'ai ouvert ma fenêtre pour voir ce qui se passait dehors. Du quatrième étage de notre appartement, j'ai vu une foule de personnes distinguées, accompagnées des policiers et des personnels de sécurité, maire de la ville, avec le préfet de département. Et quelques ministres du gouvernement, que se passe-t-il? Passait-il? Et au milieu de la foule, à ma grande surprise, j'ai vu une personne que j'ai tout de suite reconnue. C'était le prince Charles. Il visitait la cité où nous habitions, et puis il rentrait dans un appartement et prit du thé à la menthe avec une famille qui habitait dans cette cité. La personnalité que j'ai vue ce jour-là est le roi du Royaume-Uni. Aujourd'hui, oui, j'ai vu le roi marcher juste en dessous de moi. Et quand Neil Armstrong, lorsqu'il était revenu sur Terre après avoir été le premier humain à marcher sur la Lune, quelqu'un lui a demandé ce qu'il pensait de cette expérience. Il a apparemment dit qu'il n'y avait rien d'extraordinaire à ce que l'homme marche sur la Lune par rapport au fait que Dieu lui-même a marché sur cette terre. Cela fait un quart de siècle que cela s'est produit et l'endroit est toujours connu sous le nom de place du prince de Galles. Et maintenant, tournons-nous vers nos Bibles pour lire un passage qui raconte une histoire vraie et similaire qui s'est produite il y a 2000 ans sur la route de Jérusalem. Tournons nos Bibles vers l'Évangile de Luc, chapitre 19, pour lire cette merveilleuse histoire du Fils de Dieu qui a marché sur cette terre pécheresse pour chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, Luc, chapitre 19, nous allons lire le premier 10 premiers versets. Évangile de Luc, chapitre 19, nous allons lire le 10 premiers versets. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, il lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est une courte histoire, mais cette histoire dans la Bible est la plus populaire auprès des enfants et la plupart des chrétiens la connaissent. Bien que nous ayons lu ce passage un certain nombre de fois au cours de notre vie, c'est une histoire incroyable mais vraie. il serait profitable pour nous de nous arrêter un moment dans ce récit pour recevoir les leçons qu'il nous réserve. Quelques versets plus tôt de notre histoire, il y a une autre histoire dans le chapitre 18. Vous pouvez garder le doigt sur le chapitre 19. Et le chapitre 18 de l'évangile de Luc, nous trouvons l'histoire d'un jeune homme riche qui demande à Jésus, « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Regardons ensemble Luc 18, 18 à 27. Luc chapitre 18, 18 à 27. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » J'ai dit-il, observe toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Verset 23. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dire et qui peut être sauvé. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ces deux histoires se succèdent mais sont toujours très différents. Ces deux hommes sont des chercheurs du salut, et le problème apparent semble qu'ils possèdent une énorme richesse. La parole de Jésus donne la conclusion de cette triste histoire, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. La conversion de Zachée illustre la vérité de Luc 18, 27. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Zachée est un homme riche et normalement, il est impossible pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais Zachée s'est humilié devant le Sauveur et n'a pas laissé sa richesse s'interposer entre son âme et Dieu. Avant que Zachée ne rencontre le Seigneur Jésus, ou plutôt que le Seigneur ne rencontre Zachée, personne n'aurait pu penser à la conversion de cet homme riche et corrompu. Il était un homme méprisé par son peuple, probablement l'une des personnalités les plus détestées et plus dégoûtantes de la ville de Jéricho. Qui aurait cru que Jésus arrêterait pour l'appeler à descendre de l'arbre et à aller dans sa maison pour séjourner avec lui? Et c'est le seul cas enregistré où le Sauveur s'est invité chez quelqu'un dans la Bible. Aucun de ses disciples n'aurait imaginé une telle chose. Pas plus que quiconque dans la foule. Si la Bible ne nous avait pas donné le détail de la conclusion de l'histoire de Zachée, nous aurions conclu cette histoire différemment, comme ce jeune homme riche dans le chapitre 18 de l'évangile de Luc. Donc Zachée était un homme riche vivant dans une ville bien connue et stratégiquement importante d'Israël. Il exerçait la profession de percepteur d'impôts en chef. Malgré sa richesse, il n'était pas un homme heureux. Il manquait quelque chose dans sa vie et dans son cœur. Quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Bien que son nom Zachée signifie, c'est étonnant, signifie le juste ou pur, il était bien conscient du fait que sa conduite et sa moralité n'étaient pas conformes à son nom. En tant que percepteur d'impôts, il prenait une part de ce qu'il avait collecté, se justifiant en disant « Personne ne ferait ce genre de travail sans en tirer quelque chose de plus. » C'est vrai, ça ne devrait pas être facile, ce travail. En effet, les Romains avaient inventé un système de franchise où le collecteur d'impôts prenait une petite partie de ce qu'il collectait et payait la majeure partie au gouvernement romain. Jéricho était une ville riche et avait beaucoup de palmiers, exportait du baume de Gilead, qui était l'un des principaux revenus de cette ville. Et cela pourrait nous expliquer la situation de Zachée dans cette ville de Jéricho, percepteur d'impôts. Mais il avait d'autres problèmes. En tant que collecteur d'impôts, il a servi l'occupation romaine, l'ennemi cruel qui opprimait le peuple de sa nation. C'est lui qui a pris l'argent de son peuple, propre peuple, afin d'enrichir ses ennemis et bien sûr lui-même. Il était considéré comme un collaborateur, un traître et un complice. Il était haï et méprisé par les siens. Je ne sais pas combien d'entre nous aiment visiter le bureau d'impôts ou recevoir une lettre d'amour de leur part. Personne n'aime, n'est-ce pas? C'est un homme très seul. S'étant si profondément impliqué, il ne pouvait plus revenir sur ses pas. Il ne voyait ni ne trouvait d'alternative. Il avait brûlé tous ses ponts derrière lui. Il était également de petite taille. Dans cette situation, c'était un handicap pour lui. Mais quelque chose s'est passé à Jéricho. Quelqu'un qui devenait rapidement connu et d'une grande réputation était sur le point de passer dans sa propre ville. C'était Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth était son nom. Un grand et remarquable événement. Zachée ne le savait peut-être pas, mais ce devait être l'un des événements les plus importants de l'histoire de Jéricho, et bien sûr pour lui. Cette même ville a été conquise par l'armée de Dieu, par l'intermédiaire de Josué, plus de 1000 ans auparavant, lorsque ses murs se sont effondrés. On trouve cette histoire de Josué vaincre la ville de Jéricho en Josué chapitre 5 et 6. Voici maintenant un autre Josué, ou Jésus, le nom Jésus, c'est le même nom Josué. Le même nom en réalité, représentant et démontrant la même puissance divine. L'un et l'autre ont déclaré que le Seigneur sauve. Josué, ça veut dire le Seigneur sauve, éternel sauve, et Jésus également. Zachée avait entendu parler de lui. Maintenant, il voulait le voir par lui-même, face à face. C'était sans doute la recherche de leur curiosité. C'est pourquoi il entra dans la rue de Jéricho, affamé dans son cœur de voir le visiteur bien connu. Mais il ne pouvait pas le voir. Mais pourquoi? La foule qui accompagnait l'a caché à sa vue. Il y a tant de gens grands et puissants qui viennent avec ce Jésus. Le visiteur lui-même était complètement caché parmi ses disciples et la foule. Zachée a tout essayé encore sans voir celui qu'il désirait ardemment voir. Quelle tragédie! Il voulait voir Jésus, pas ses disciples, ni les gens autour de lui, mais Jésus lui-même, le salut du Seigneur lui-même. Bien qu'il fût un chef collecteur d'impôts, il n'avait pas honte de faire quelque chose de non conventionnel pour voir le Sauveur. Il voit le grand sycomore, un sort de figuier sauvage qui est originaire d'Égypte, qui poussait au bord du chemin. Immédiatement, il pensa qu'il allait escalader cet arbre. Habituellement, seuls les enfants grimpaient aux arbres. Et en plus, en cette époque-là, il n'était pas honorable pour les hommes de courir, même courir en Israël. Et en plus, il n'était pas un homme ordinaire. Il était bien connu, c'est un homme très populaire. C'est un officier bénéficiant de soutien du régime oppressif romain qui était au pouvoir. Le verset 4 de notre passage dit qu'il a couru devant tout le monde dans la foule pour avoir un coup d'œil sur ce visiteur unique. Il le savait. Il savait aussi que les gens pourraient se moquer de lui pendant qu'il grimpait, eh bien, il prendrait le risque. Les gens autour de lui se moquaient de lui quand même. Il n'avait rien à perdre. Sans plus d'hésitation, il monta de plus en plus, plus haut, le cœur rempli d'anticipation. Soudain, la foule se trouva au-dessus de lui. Il y avait tellement de bruit, des gens qui parlaient, qui criaient et même qui chantaient. Il baissa les yeux et son cœur battit très fort. Soudain, l'un des membres du groupe en mouvement s'arrêta. Les gens autour de lui semblaient pris par surprise. Et maintenant, l'homme qui s'était arrêté leva la tête, leva les yeux vers lui et appela par son propre nom d'une voix puissante mais douce. Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. J'espère que vous avez remarqué quelque chose ici. Zachée, étant un homme de petite taille, ne pouvait pas voir Jésus à cause de sa stature. Alors, il grimpe sur un arbre pour regarder Jésus au-dessus des branches qui planaient au-dessus de la route. Il voulait juste avoir un aperçu de la personne qui passait. Mais Jésus, arrivant à cet endroit, sur son chemin, il s'arrête juste en dessus de la branche de l'arbre où Zachée était perché. N'est-ce pas merveilleux cette rencontre? Il y avait certainement une grande procession avec une foule immense qui le suivait. Il allait à Jérusalem et c'est juste 8 à 10 jours avant sa crucifixion. Et c'est la troisième fois que Jésus il va vers Jérusalem. C'est la troisième fois et la dernière fois. Il y en avait probablement d'autres, comme des jeunes enfants qui avaient grimpé aux arbres. Certainement, ce n'est pas seulement Zachée. Si vous connaissez dans certaines villes où il y a des VIP qui passent, les gens, ils font tout pour avoir une vue de ce VIP. Comment se fait-il que Jésus se soit arrêté là pour regarder Zachée et l'appeler par son nom? Nous ne devons jamais oublier que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus n'a jamais cessé de faire partie de Dieu trinitaire. Il était omniscient aussi. Et nous venons de chanter un chant sur la croix. Et il a inscrit mon nom dans sa main. Et sa main qui était clouée sur la croix. Donc Jésus, il partait pour être cloué sur la croix. Il avait le nom de chacun d'entre nous, nous pécheurs. Malgré la condescendance du Fils de Dieu à se vider de lui-même, son omniscience est clairement visible dans les écrits du Nouveau Testament. La première prière des apôtres dans l'Acte 1:24, je lis ce passage, « Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, et même pendant le moment d'adoration, nous avons lu un passage que Dieu connaît le cœur de ses auditeurs. Implique l'omniscience de Jésus qui est nécessaire pour qu'il puisse recevoir des demandes et d'intercéder à la droite de Dieu. Sur terre, l'omniscience de Jésus est tout aussi claire dans les nombreux récits évangéliques. Il connaissait les pensées de son auditoire. Il connaissait la vie des gens avant même de les avoir rencontrés. Le fait est que tu as eu 5 maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari, disait Jésus à cette femme samaritaine qui puisait l'eau dans le puits. Il dit aussi à ses disciples que leur ami Lazare était mort, bien qu'il se trouvait à plus de 40 kilomètres de la maison de Lazare, de Béthanie. Il a conseillé aux disciples d'aller se préparer pour le repas du Pâques en décrivant la personne qu'ils devaient rencontrer et suivre. Peut-être le meilleur de tous, il connaissait Nathanaël avant même de le rencontrer, car il connaissait son cœur. Et Jésus, voyant en lui-même que la puissance était sortie de lui, se retourna aussitôt dans la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ça démontre l'omniscience de Dieu. La pensée vint à Zachée que bien qu'il n'ait pas pu voir Jésus, cela ne l'avait pas empêché Jésus de le voir. Il connaissait même son nom. Qui lui avait dit? En Jean 10, 3, nous lisons, « Et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Il connaît le nom de ses brebis. Il savait aussi qu'il possédait une maison, Lazare, et il lui demandait de le ramener chez lui, à la maison. Seul Dieu savait ce qui se passait réellement dans le cœur de Zachée à ce moment-là. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Les critiques de Jésus se sont tous plaints contre lui parce qu'il était allé être invité d'un homme qui était un pécheur connu, un pécheur bien connu dans la ville, comme si les gens de cette ville n'étaient pas pécheurs. La parole de Dieu est claire quand elle nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. » Psaume 1. Il n'est tout simplement pas facile pour nous de nous mêler aux gens corrompus de ce monde et de rester purs pour le Seigneur. Ecclésiaste, il dit, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Bien sûr, nous devons faire attention à ne pas nous mêler aux gens de ce monde, de peur de nous laisser influencer par eux. Mais Jésus vivait dans le monde, même dans lequel nous vivons, et pourtant il n'avait pas l'odeur du péché sur lui. Il était saint. Il a touché les lépreux pour les guérir à l'époque où les lépreux vivaient à l'extérieur de la ville, à une bonne distance. Il guérissait les lépreux sans contracter la lèpre. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Cette critique était toujours adressée à Jésus chaque fois qu'il se mêlait aux gens qu'il estimait être des pécheurs. Ils ont probablement négligé le fait que, venant dans ce monde comme le nôtre, il était limité exclusivement à des tels foyers. Jésus dirait toujours que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Seul Dieu peut changer des vies. Seul Dieu peut changer des vies. Quand Jésus a dit à Zachée, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Il a fait ce qu'on lui a dit, a reçu le Seigneur avec... Il a fait ce qu'on lui a dit et il a reçu le Seigneur avec joie. C'est à ce moment-là que l'on peut presque dater sa conversion. Le moment où il a écouté le Seigneur Il a couru vers sa demeure. Il a reçu le Seigneur avec joie. On peut dire que la conversion de Zachée a eu en ce moment-là. Le salut avait apporté un changement radical dans la vie de ce collecteur d'impôts. Il informe le Sauveur Jésus-Christ qu'il avait maintenant l'intention de donner la moitié de ses biens aux pauvres. Nous savons que jusqu'à ce moment-là, il avait escroqué autant que possible aux pauvres. Et maintenant, ce qu'il dit, il déclare son intention de donner la moitié de ses biens aux pauvres. Et qu'est-ce que ça passait entre les deux? Il prévoyait également de dédommager au maximum tout l'argent qu'il avait gagné malhonnêtement. C'était plus que ce que la loi exigeait. Je vais lire quelques passages de l'Ancien Testament, ce qu'il disait la loi par rapport à la restitution. Exode 22, « Si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Si un homme, verset 5 et verset 7, si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder et qu'on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur fera une restitution au double dans le cas où il serait trouvé. Et encore à Nombre 5, 7, il confessera son péché, il le restituera dans son entier l'objet mal acquis et lui ajoutant une cinquième, il le remettra à celui envers qui s'est rendu coupable. Ça, c'est ce que la loi exigeait. Mais Zachée, il voulait donner quadruple. Il voulait donner de moitié de ses biens aux pauvres. Cela montrait que Zachée était maintenant contrôlé par l'amour, alors qu'auparavant, il était dominé par la cupidité. Nous voyons comment le Christ change le cœur et le comportement de la personne quand il entre dans sa vie. Il y avait maintenant un autre collecteur d'impôts en chef à Jéricho. Ce n'était plus le même homme. Comme il se comporte différemment et montre ouvertement comment vivre. Regardez le verset 8 de notre passage, Luc 19. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et quand le Seigneur il a dit que je viens chez toi, il faut que je demeure chez toi, je pense que Zachée l'a cru et pour se poser devant le Seigneur pour dire que, « Seigneur, attends, j'ai beaucoup de choses à régler. Je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres et je vais rendre quadruple à tout ce qui je fais le tort. » On voit Zachée devant sa maison, devant le Seigneur. Voilà ce que je pense à faire, ce que je veux faire. Peut-être on dirait presque que Zachée se vantait de sa philanthropie et qu'il en remettait à son salut. Là n'est pas du tout la question. Il dit simplement que sa nouvelle vie en Christ lui a fait désirer et réparer le passé et que par gratitude envers Dieu pour le salut, il voulait maintenant utiliser son argent pour la gloire de Dieu et pour la bénédiction de son prochain. Le salut ne dispense pas une personne de redresser le tort du passé. Les dettes contractées pendant les jours non convertis ne sont pas annulées par la nouvelle naissance. Et si l'argent a été volé avant le salut, alors un vrai sens de la grâce de Dieu exige que cet argent soit remboursé après qu'une personne soit devenue un enfant de Dieu. J'espère que nous pratiquons cela dans notre église, dans notre assemblée. J'ai un ami en Inde qui, lorsqu'il était converti à Jésus, pendant sa période de la repentance, a voulu restituer presque tout. Quand il m'a raconté, c'était un peu bizarre pour moi. Et Il a calculé le nombre de fois où il avait voyagé dans le train sans payer. Il s'est assis dans sa chambre et a calculé l'argent qu'il devait payer au chemin de fer et de leur envoyer un chèque. C'était quelque chose de totalement nouveau pour eux et qu'ils ont retourné le chèque. Mais c'est ce qui arrive quand un pécheur se répand de ses voies. Avez-vous connu ce processus de restitution, mes amis? Convertir, c'est repentir. On peut dire que je suis converti, mais est-ce que vous avez repenti de tous vos péchés? Convertir, c'est repentir. Retourner de sa mauvaise voie et repartir à zéro. Dans Luc 16, 18, ces trois chapitres, 16, 17 et 18, ça parle un peu l'argent. Et dans Luc 16, 18, Jésus a dit, « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Nous connaissons bien ce passage, n'est-ce pas? Nous connaissons bien ce verset. Très souvent, les chrétiens pensent que l'on ne peut pas servir Dieu et Satan. C'est vrai, mais ici, dans ce chapitre, Jésus ne parle pas du tout de Satan. La question est celle de l'argent, de la richesse et de la bien de ce monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean 2,15. Dans ce passage, Jésus l'a dit. Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Je ne veux pas dire que les chrétiens ne peuvent pas être riches et qu'ils ne doivent essentiellement être pauvres. Être chrétien, ça ne devrait pas être toujours pauvre. On peut être riche et aussi chrétien. Le fait est que vous ne pouvez pas être chrétien et aimer l'argent. Aimer l'argent, le monde et tout ce que le monde a à vous offrir. Nous avons tous des problèmes avec l'argent et la façon dont nous gérons l'argent. L'argent en lui-même est neutre. Ce n'est pas un péché non plus. La Bible dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelqu'un, en étant possédé, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et bien souvent, ces versets sont mal cités. On dit que l'argent est une racine de tous les maux. Non, la parole nous dit que c'est l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'utilisons-nous pour la gloire de Dieu, l'argent que nous pouvons posséder. Utilisons-nous pour la gloire de Dieu. Dans le verset 9, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Après avoir entendu tout ce que Zachée l'a dit, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Le salut n'est pas venu parce que Zachée était un juif de naissance. Ici, l'expression « un fils d'Abraham » indique plus qu'une descendance naturelle. Cela signifie que Zachée a exercé le même genre de foi dans le Seigneur qu'Abraham. Vous vous souvenez très souvent, ce sont les pharisiens qui ont pris cette carte en disant qu'il était le fils d'Abraham. De même, le salut n'est pas venu dans la maison de Zachée à cause de ses dons et de sa restitution. Ces choses sont l'effet du salut, pas la cause. En conclusion, il y a une autre leçon qui nous est donnée dans cette histoire. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a tellement de personnes comme Zachée, tant de petites personnes, quand je parle de taille, et aussi comment le monde il peut nous voir, tant de petites personnes qui aspirent à voir et rencontrer le salut de Dieu dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Ils regarderont ceux qui professent être ses témoins, c'est-à-dire nous, les chrétiens. Ils regarderont ceux qui professent être ses témoins, ses amis, ses croyants. Et que voient-ils? Très souvent, ils ne voient qu'une foule d'hommes et de femmes de grande taille qui se cachent et couvrent le Sauveur de leur ombre. Ce qu'ils voient, c'est notre orgueil, notre pharisaïsme, nos vêtements sacerdotaux, nos titres revendiqués, nos yeux et nos paroles qui jugent, notre joie qui condamne, nos traditions, nos doctrines, nos bâtiments et nos activités. Mais où est celui qu'ils ont vraiment besoin de voir dans tout cela? Sont-ils capables de voir et lui seul? Est-ce qu'ils sont capables de voir Jésus-Christ? Ou quelque part, nous, inconsciemment, nous cachons le Sauveur du monde aux pécheurs qui essaient de voir n'importe comment le Sauveur. Sont-ils capables de le voir et lui seul, son vrai visage, sa vraie nature, sa volonté, ses bras ouverts et salvateurs, ses blessures, son cœur, son amour, sa puissance et ses yeux qui cherchent? Est-ce que les gens du monde, les pécheurs de ce monde, est-ce qu'il arrive à voir le Sauveur Jésus-Christ? Ou nous sommes en train de cacher ce Sauveur par notre personnalité, par notre image? Satan de l'extérieur et la chair de l'intérieur ont si souvent réussi à intéresser à leur propre position d'exaltation, qui oublie tout simplement la véritable tâche et le véritable défi qui est d'apporter et révéler le Seigneur Jésus à tous ces gens qui ressemblent à Zachée parmi nous. Que Dieu nous aide à grandir dans la foi, tout comme Jean-Baptiste l'a fait en faisant savoir « Il faut qu'il croisse, mais que je diminue. » Ainsi donc, chers compagnons de service du Seigneur, faites entrer le Seigneur Jésus-Christ dans et travers les maisons dans lesquelles nous vivons et dans la ville ou village qui nous entoure, dans les églises où nous sommes. Il y aura là beaucoup de gens comme Zachée qui n'attendent que voir le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ses pieds, nous sommes ses bras, nous sommes son cœur et sa bouche. Sur le chemin de Jérusalem, Jésus rencontra une grande variété de personnes. Il y avait quelque chose qu'il avait tous en commun. Soit il était attiré vers lui dans leurs besoins, soit repoussé de lui par leur orgueil. Personne n'était neutre. Si aujourd'hui, pendant la période étrange de nos jours, si nous entendions que Jésus est de passage dans la ville où nous vivons, nous nous précipiterons dans nos salons pour allumer notre téléviseur ou ouvrir notre smartphone pour voir Jésus. Mais cet homme, Zachée, a dû grimper sur un sycomore pour voir Jésus, qui était en route pour Jérusalem. Pourtant, à un certain égard, Zachée savait déjà qui était Jésus et qu'il valait la peine d'être vu. Nous aussi, par la parole de Dieu, nous avons pleinement accès à la vérité complète de qui est Dieu. Nous avons tendance à chercher haut et bas tous les secrets de la vie que nous craignons de manquer, Nous cherchons dans le livre, nous cherchons des messages cachés et nous cherchons un but et un sens aux mauvais endroits. Mais nous n'avons pas besoin de prendre des mesures extraordinaires pour trouver la vérité qui est écrite pour nous sur chaque page de l'Écriture. Comme Jésus expliquait à ses deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, Jésus était la pleine représentation humaine de la vérité et nous n'avons pas besoin de chercher plus loin que lui. La parole dans le passage termine ainsi, « Quand le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. En Révélation 3, 20, nous lisons, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte. Je viendrai chez lui, je souperai avec lui. » Et Dieu cherche la personne, des personnes pour les sauver. Vous savez, cette verset est peint par un grand peintre. Je ne connais pas le nom de personne, mais souvent on a vu ce portrait qui Jésus, l'image de Jésus, en train de frapper à la porte. Mais sur la peinture, on ne voit pas le poignet dans la porte, car le poignet il est à l'intérieur. La personne qui devrait ouvrir, il devrait ouvrir de l'intérieur. Jésus ne force pas la porte pour entrer chez qui que soit. Donc, il frappe à la porte, mais la personne à l'intérieur devrait ouvrir pour faire entrer le Seigneur. S'il y a quelqu'un aujourd'hui, ce matin parmi nous, qui entend la voix du Seigneur, qui entend le Seigneur frapper à la porte de son cœur, il devrait ouvrir pour faire entrer le Seigneur. Il a besoin de salut, il a besoin de la repentance. Il a besoin de la communion avec le Seigneur. Comme nous avons lu en Éphésiens 4 ce matin, si quelqu'un dérobe, il dérobe point. Si quelqu'un ment, il ment point. Quand le Seigneur Jésus entre dans la vie d'une personne, la vie change radicalement. Est-ce que nous connaissons cette repentance, ce changement radical dans la vie chrétienne. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous conduise dans sa vérité. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cet exemple que tu as laissé dans la vie de cet homme Zaché. Et peut-être il était haï, il était méprisé, il n'était pas compté parmi le peuple de Dieu. Mais Seigneur, tu l'as connu même avant la fondation du monde. Tu as connu son nom. Tu connais tout sur lui. Seigneur, tu es venu chercher cet homme où il était. Seigneur, ainsi tu viens, Seigneur, vers nous aussi. Merci d'avoir nous appelé par nos propres noms, de nous avoir fait tes disciples, tes enfants. Seigneur, peut-être nous ne sommes pas riches comme cet homme, mais nous sommes tous corrompus par le péché. Et nous avons besoin d'un sauveur. Seigneur, que le sauveur Jésus-Christ brille au milieu de nous. Seigneur, qu'il illumine nos cœurs, qu'il montre les choses qui sont sombres dans notre vie. Qui, Seigneur, en écoutant ta parole, nous laissons cette place à notre Seigneur de purifier notre vie, de purifier notre cœur. Seigneur, viens, prends toute notre vie, prends toute la place dans notre vie. Que Seigneur, ton nom soit glorifié et que nous montrons ce Sauveur à ce monde qui est perdu. Au nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions cette prière et pour ta seule gloire. Amen.